Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Nous avons de la chance qu'il soit bon enfant. Mais il entend ne pas être dupe, cet excellent entre guillemets bien sûr, commissaire de police. Et il a la prétention de bien connaître son métier. Mais un fou peut aussi prétendre être bon enfant et invectiver le commissaire. Tout en vous, pauvre idiot, lui dit-il, tout respire et trahit la démence, depuis la bouffonnerie de votre accoutrement jusqu'à l'absurdité sans nom de votre visage. L'auteur des Gaîtés de l'Escadron, de Messieurs les Ronds de Cuir, de La Vie de Caserne, et du Gendarme et sans pitié, avait écrit en 1900, en collaboration avec Jules Lévy, « Le commissaire est bon enfant ». En voici une représentation donnée par la troupe de la Comédie française, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 11 mars 1951.
Notre transmission va se terminer à présent par une comédie en un acte de Georges Courteline et Jules Lévy, « Le commissaire est bon enfant », avec la distribution suivante. Jean Meyer sera Monsieur Floche, Louis Seigné Breloque, Robert Manuel le commissaire, Georges Baconnet, Monsieur Punaise, Jean Pia un monsieur, Michel Galabru, l'agent La Grenaille, Denise Jean, ce sera Madame Floche, et Jean-Louis Le Goff, l'agent Garrigou. La mise en scène est de Robert Manuel. Nous sommes dans le bureau de Monsieur le commissaire.
M'autoriser à porter une arme sur moi?
Non.
Qu'est-ce que ça vous fait?
Ça me fait que je ne la veux pas.
Le quartier n'est pas sûr. Il est infesté de souteneurs qui bataillent entre eux toute la nuit et attaquent les passants pour les dévaliser. Or, je suis correcteur d'imprimerie. La profession que j'exerce m'oblige à rentrer tard chez moi.
Exercez-en une autre.
Je veux bien, trouvez-moi une.
Vous voulez rire, j'imagine? Est-ce que vous me croyez dans un bureau de placement?
Si on m'attaque, moi, cette nuit...
Vous viendrez me le dire demain.
Et alors?
Alors, mais seulement alors, je vous autoriserai à sortir avec un revolver sur vous.
En sorte que j'aurai le droit de défendre ma peau après qu'on me l'aura troué.
Oui.
Charmant.
Ah, puis en voilà assez. Aux ordres du gouvernement, que j'ai l'honneur de servir, je suis ici pour appliquer les lois. Et non, comme vous semblez le croire, pour en discuter la sagesse. Si vous n'êtes pas content de nos institutions, changez-les.
Ben, si ça ne tenait qu'à moi...
Hein, quoi? Un mot de plus et je vous fais embarquer. A-t-on idée d'un ostrogo pareil, qui vient semer la perturbation et faire le révolutionnaire jusque dans le commissariat? Vous avez de la chance que je sois bon enfant. En voilà assez, je vous dis. Allez, fichez-moi le camp, ça ne traîne pas. Je vous fais voir le tempo, je me chauffe. Allez, allez. J'aurai l'œil sur cet anarchiste. Priez monsieur Punaise de venir me parler. Bonjour monsieur Punaise. Dites-moi monsieur Punaise, savez-vous bien que votre service est fait comme par un cochon? Et que si cela doit continuer, je me verrai contraint de demander au préfet votre révocation ou votre déplacement. 100 fois monsieur Punaise, 100 fois. Je vous ai ordonné de procéder le matin à un travail d'élimination de nature à simplifier le mien et à désencombrer du coup ma tâche, ma table et ma pensée. Mais voilà, je vous aurais chanté « Femme sensible » sur l'air de M. Malbrook que le résultat serait le même. Voyez-moi plutôt ce courrier. Plainte d'une servante contre son maître qui aurait tenté d'abuser d'elle. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Pas de suite à donner, enlevé. Plainte d'un particulier contre un cocher de fiacre qui l'aurait traité de pourriture. Je m'en bats l'œil. Est-ce que ça me regarde? Enlevé. Bon. Voilà un concierge qui a l'oreille paresseuse et un locataire qui se plaint d'être resté 2 heures à sa porte sous la pluie. Qu'il s'en prenne au propriétaire, espère-t-il que j'irai lui tirer le cordon, enlevé encore. Et cette cuisinière qui réclame 8 jours de gage, affaire de justice de paix, enlevé. Et cela aussi, et cela de même. En vérité, monsieur Punaise, je pense que vous êtes absorbé par l'amour. Oh. Que j'ai trop figuré de votre intelligence. En voilà assez. Taisez-vous. Je veux bien être bon enfant, mais je n'entends pas être dupe. Que ce mot vous serve de leçon, c'est d'ailleurs la dernière que vous recevrez de moi. Vous pouvez vous le tenir pour dit. Je vous salue, monsieur Punaise.
Je suis d'origine espagnole, mon nom se prononce Pugnet.
Au suivant. Ce feu ne va pas. C'est une Sibérie ici.
Le commissaire.
C'est moi.
Je viens me plaindre.
De votre mari.
Précisément.
Vous voyez, madame, que je suis tombé juste. Eh bien, madame, je ne puis rien pour vous. J'ai le regret de vous l'apprendre, mais j'en ai également le devoir.
Monsieur...
Ne vous essayez pas, madame. C'est inutile. Vous allez perdre votre temps et me faire perdre le mien. C'est curieux ce parti pris pour les trois quarts des femmes de considérer le commissaire de police pour un raccommodeur de ménage cassé. Madame, les petites querelles d'intérieur ne sont pas de la compétence du commissaire de police. Sorti des flagrants délits d'adultère, le commissaire ne doit, ne peut intervenir qu'en cas d'entretien de concubine au domicile conjugal. Est-ce le cas de votre mari?
Monsieur!
Je vous en prie, madame, pas de paroles inutiles. C'est oui ou si c'est non? Si c'est oui, madame, déposez une plainte au parquet qui me transmettra des instructions. Si c'est non, votre démarche est nulle et non avouée et vous pouvez vous fuir.
Mon mari ne me trompe pas!
Alors il vous... En ce cas, madame, faites constater le fait par témoin. Introduisez une instance en divorce et les juges vous donneront gain de cause. Je vous répète que les femmes ont la rage de s'emparer du commissaire et de le mettre à toutes les sauces. Que diable, madame, soyez raisonnable. S'il me fallait intervenir la branche d'olivier à la main dans tous les salons où l'on se cogne, il me faudrait 60 jours au mois et 40 heures à la journée.
Mais monsieur le commissaire, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mon mari ne me bat pas plus qu'il ne me trompe.
Non, je parie qu'il est fou.
C'est vrai.
Vous me rendrez cette justice que j'ai plutôt l'air d'un monsieur connaissant les choses dont il parle.
Comment avez-vous pu deviner?
J'ai tellement l'habitude de ces sortes de choses. Et des histoires comme la vôtre, ma chère dame, je la connais depuis A jusqu'à Z. Et des visites comme la vôtre, j'en reçois jusqu'à 10 par jour. Voulez-vous un conseil? Un bon? Rentrez donc tranquillement chez vous, préparez votre déjeuner, votre mari n'est pas plus fou que moi.
Il est fou, allié?
Non.
Si?
Non. Est-ce qu'il se saoule, votre mari?
Du tout.
Avez-vous connaissance qu'il ait eu la fièvre typhoïde ou qu'il ait reçu un coup de soleil?
Aucun souvenir.
Appartient-il à une famille d'alcooliques, d'épileptiques ou d'aliénés?
Je ne crois pas.
Eh bien?
Eh bien quoi? Est-ce une raison parce qu'il n'y a pas de fou chez lui pour qu'il n'y en ait pas un chez moi?
Permettez.
Il ne voit pas après. Ça empêche-t-il qu'il ne fasse rien comme personne, qu'il ne tienne des discours auxquels on ne comprend en goutte et qu'il n'accomplisse des actions sans devant ni derrière, autant dire.
Quels discours? Quelles actions?
Comment quelles actions? Et les nuits blanches que je passe à l'écouter causer tout seul, combiner je ne sais quoi, menacer je ne sais qui, ruminer des heures entières, sans parler des moments où il saute du lit en chemise, le revolver au poing, en criant je brûle la figure au premier qui touche à ma femme. C'est naturel ça peut-être.
Il est jaloux.
Jaloux?
Oui.
C'est facile à dire. Je voudrais bien savoir si c'est par jalousie qu'il s'enferme dans les cabinets pendant des fois 2 et 3 heures pour déclamer tout haut contre la société. Hurler que l'univers entier a une araignée dans le plafond, une punaise dans le bois de lit et un rat dans la contrebasse.
Il dit que l'univers entier a un rat dans la contrebasse?
Oui, parfaitement. Il voit des fous partout, monsieur. Et avec ça, notez qu'il ne fait plus un pas sans hurler une, deux à tue-tête sous prétexte de se développer les pectoraux. Au point qu'il est devenu la risée du quartier et que les enfants lui donnent chasse en criant la chance.
Vous exagérez.
Pas de cela.
Allons donc, mais si c'était vrai, il y a longtemps que les agents lui auraient mis la main dessus. Il aurait amené à mon commissariat pour scandale sur la voie publique.
Les agents sont occupés qu'à dresser des contraventions aux marchandes de 4 saisons.
Les agents sont de braves gens qui se conforment de leur mieux aux obligations de leur charge. Si vous êtes venu ici pour y exercer votre esprit caustique, vous vous êtes trompé d'adresse. Je suis bon enfant d'écouter vos sornettes. Ne croyez pas que par-dessus le marché j'encaisserai vos impertinences. Pour en revenir à votre mari, vous voulez qu'il soit fou. Vous le voulez à toute force, eh bien c'est une affaire entendue, il est fou. Après.
Après?
Oui, après, si vous voulez que j'y passe.
Mais enfin, monsieur le commissaire,
vous vous trompiez. Suis-je médecin aliéniste et puis-je le guérir? Non, alors. Car il faut pourtant se décider à dire des choses raisonnables et présenter les faits sous leur véritable jour. Madame, le cas de votre mari, puisque quand il y a, dites-vous, n'est pas du ressort du commissaire, mais bien de celui de l'assistance publique. C'est donc à elle et non à moi que vous devez faire part de vos craintes et déposer votre requête. Je m'empresse d'ajouter d'ailleurs qu'à moins d'un miracle improbable, il n'y sera donné aucune suite.
Parce que...
Parce que... Il n'y a que les femmes pour poser des questions pareilles. Parce que l'assistance publique n'est pas ce qu'un vain peuple pense. Et que les moyens dont elle dispose sont loin, bien loin, d'être en rapport avec les charges qui lui incombent et sous lesquelles elle succombe.
Eh bien, monsieur le commissaire, je vous préviens d'une chose. Mon mari n'est encore dangereux que pour moi. Le moment n'est pas éloigné où il le deviendra pour tout le monde.
En ce moment sera venu, madame, nous avisons. En attendant, comme les asiles regorgent de pensionnaires et de demandes d'admission, que je ne puis procéder d'office sur la première requête venue à la séquestration d'un homme dont l'exaltation cérébrale n'existe vraisemblablement que dans l'imagination de sa femme, que je la puise enfin avec la meilleure volonté du monde. Perdre une matinée tout entière à rabâcher toujours les mêmes choses sans arriver à me faire comprendre, vous trouverez bon que nous en restions là.
Enfin, monsieur le commissaire,
vous avez une conversation charmante, madame pleine d'intérêt. Malheureusement, le devoir m'appelle, comme on dit dans les opéras. Conseillez à votre mari la marche, le bromure et l'hydrothérapie. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Vous demandez
une audience. Une courte audience.
Si courte que cela?
J'en ai pour une minute.
Pas plus?
À peine.
En ce cas. Veuillez vous expliquer.
Monsieur le commissaire, c'est bien simple. Je viens déposer entre vos mains une montre que j'ai trouvée cette nuit à l'angle de la rue Monsieur le Prince et du boulevard Saint-Michel.
Une montre?
Une montre.
Voyons.
Voici.
C'est une montre en effet.
Il n'y a pas d'erreur.
Je vous remercie.
Je puis me retirer?
Pas encore.
Je suis un peu pressé.
Je le regrette.
On m'attend.
On vous attendra.
Ah?
Oui.
Mais...
C'est bien. Un instant. Ne supposez pas sans doute que je vais recueillir cette montre de vos mains sans que vous m'ayez dit comment elle y est tombée.
J'ai eu l'honneur de vous dire tout à l'heure que je l'avais trouvée cette nuit à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Monsieur le Prince.
J'entends bien. Mais où?
Où?
Oui.
Par terre.
Sur le trottoir?
Sur le trottoir.
Voilà qui est extraordinaire. Le trottoir, ce n'est pas une place pour mettre une montre.
Je vous ferai remarquer...
Ah, je vous dispense de toute remarque. J'ai la prétention de connaître mon métier. Au lieu de me donner des conseils, donnez-moi donc votre état civil.
Je m'appelle Breloc. Jean Eustache. Je suis né à Pontoise le 26 décembre 1861. De Pierre, Timoléon, Alphonse, Jean, Jacques, Alfred, Oscar Breloc et de Céleste Moucherolle, son épouse.
Où demeurez-vous?
47 rue Pétrel, au premier au-dessus de l'entresol.
Quelles sont vos ressources?
J'ai 25 000 livres de rente, une propriété en Touraine, une chasse gardée en Beauce, 6 chiens, 3 chats, une bourrique, 11 lapins et un cochon d'Inde.
Ça suffit. Quelle heure était-il quand vous avez trouvé cette montre?
3 heures du matin.
Pas plus?
Non.
Vous faites l'effet de mener une singulière existence.
Je mène l'existence qui me plaît.
Possible. J'ai le droit, moi, de me demander ce que vous pouviez bien afficher à 3 heures du matin, au coin de la rue Monsieur le Prince, vous qui dites habiter rue Pétrel 47.
Comment je dis?
Ah oui, vous le dites.
Et je le dis parce que cela est.
C'est ce qu'il faudra établir. En attendant, c'est quoi le plaisir de répondre avec courtoisie aux questions que les devoirs de ma charge m'obligent à vous poser. Je vous demande, ce que vous faisiez à une heure aussi avancée de la nuit, dans un quartier qui n'est pas le vôtre?
Je revenais de chez ma maîtresse.
Qu'est-ce qu'elle fait, votre maîtresse?
C'est une femme mariée.
À qui?
À un pharmacien.
Qui s'appelle?
Ça ne vous regarde pas.
Mais c'est à moi que vous parlez?
Je pense.
Non, mais vous allez changer de langage, mon gaillard. Vous prenez sur un ton qui ne me revient pas, contrairement à votre figure qui me revient, elle.
Ah bah!
Mais comme un souvenir. Vous n'avez jamais eu de condamnation.
Et vous?
Vous êtes de l'insolence.
Et vous, une foutue bête.
Retirez cette parole.
Ah, oh, mais en voilà, ça me prend
encore un voyou.
Non,
vous
mais
vous parlez avec une
bête. Oui,
ma comment c'est vous qui vous avez pour la paix, j'en sais rien. Vous êtes dans la vie, vous êtes dans la vie, vous êtes dans la vie, vous êtes dans la vie,
vous êtes dans la vie, vous êtes
dans la vie, vous êtes dans la vie, vous êtes dans la
vie, vous
êtes dans
la vie, vous êtes
dans la vie, vous êtes
dans la vie, vous êtes dans la vie, vous êtes dans la vie, vous êtes.
Breloque, Breloque. Est-ce que c'est cet homme-là s'appelle Breloque? À la rigueur, moi aussi, je pourrais m'appeler Breloque. Si on les écoutait, ils s'appelleraient tous Breloque. Cher Péripopette, il vient en avant par cette fenêtre.
Le commissaire! Où est le commissaire? Je peux parler au commissaire?
Alors, qu'est-ce qu'il vient?
C'est vous, le commissaire?
À part de moi, s'il vous plaît. Vous parlez quand je vous y inviterai. De quoi s'agit-il de la grenade?
C'est monsieur qui faisait l'esclandre à l'angle de la rue Dunkerque du Faubourg Poissonnière en débinant la République. Comme les passants assemblés concouraient de toutes parts au désordre de la rue, nous avons hâté le pas, mon collègue et moi, et avons engagé monsieur à satisfaire de bonne grâce aux lois de la circulation. Sur le refus qui nous opposa, nous l'avons saisi par le bras sans violence et l'avons amené.
A-t-il fait de la rébellion?
Non, monsieur le commissaire.
Vous êtes-il injurié?
Du tout.
Je n'avais pas de raison pour être malhonnête avec des agents comme il faut. Quant à de la rébellion, j'aime trop l'autorité pour n'en avoir pas le respect.
Voilà un principe de conduite auquel vous auriez dû vous conformer plus tôt.
Par exemple?
Quand les agents vous ont prié de circuler.
Oh, ça.
Quoi, ça?
Je dis... Oh, ça. Dire oh, ça, c'est le droit de tout le monde.
Oui. Mais ce qui n'est le droit de personne, c'est de se livrer comme vous l'avez fait à des démonstrations publiques. Et de tenir à haute voix des propos séditieux.
La République me dégoûte.
Ça n'est pas une raison suffisante pour que vous essayiez d'en dégoûter les autres.
Ça encore.
Quoi ça encore?
Je dis... Ça encore. Ça vous choque?
Oui, ça me choque. Et puisque vous le prenez comme ça, le paysage va changer d'aspect. Je vous remercie. Ça encore. Comment vous appelez-vous?
Cloche.
Avec ou sans S?
Sans S.
Et votre profession?
Je n'en ai pas. J'ai un petit capital qui travaille pour moi.
Vous êtes décoré?
Qui, moi? Non.
Alors ça?
Ça? C'est un pense-bête. J'ai la mémoire assez indocile, je vous dirais. Elle a tendance à faire l'école buissonnière, si bien que je suis contraint de lui mettre un licou. D'où ce ruban, qui la rappelle quand le besoin s'en fait sentir au sentiment de sa mission. C'est nouveau et ingénieux, supérieur au mouchoir corné, qui perd toute efficacité si vous l'êtes affligé du rhume de cerveau, et à l'épingle sur la manche, qui a le tort de vous signaler comme étourneau à la raillerie des imbéciles.
Soit. Mais si ce ruban ne vous signale pas à la raillerie des imbéciles, il peut vous signaler à l'attention des juges et vous valoir 6 mois de prison. Enlevez-moi ça, hein? Votre âge.
Avez-vous idée d'un poète composant une tragédie dans un salon où un professeur de piano ferait des gammes du matin au soir? Non, n'est-ce pas? Eh bien, ma mémoire est à l'image de ce poète. Elle est logée dans un cerveau où le génie fait trop de musique.
Vous êtes un faiseur d'embarras. Je vous invite à garder pour vous vos phrases d'apanage dont j'ai que faire et à répondre à mes questions. Je vous demande quel âge vous avez.
25 ans.
L'est-il?
25 ans.
Comment 25 ans? Vous avez 25 ans?
Oui.
Vous les avez eus?
C'est bien pourquoi je les ai gardés.
Drôle de raisonnement.
Drôle en quoi? Il est logique comme une démonstration d'algèbre, lumineux comme un clair de lune et simple comme une âme d'enfant. J'ai eu 25 ans, oui, parbleu. Seulement le jour où je les ai eus, je me suis dit en moi-même, bel âge, tenons-nous-y. Je m'y suis donc tenu, je continue à m'y tenir et je m'y tiendrai jusqu'à ce que mort s'en suive. Avec votre permission.
Un mot. Il est bien entendu que vous ne vous moquez pas de moi.
Je ne vois rien dans mes allures, dans ma tenue ou dans mon langage qui puisse vous autoriser à une supposition semblable.
C'est que précisément...
J'attendais l'objection. Elle était fatale. On a un temps où la raison se promenant gravement par les rues, la tête en bas et les jambes en l'air, on en est venu petit à petit à ne plus distinguer nettement ce qui est le vrai de ce qui est le faux, puis à prendre le faux pour le vrai, l'ombre pour la lumière, le soleil pour la lune et le bon sens pour les gamins. C'est ainsi que ma femme, qui est devenue folle, au contact d'un air saturé de folie, tire des plans pour me faire fourrer à Charenton.
Se peut-il ? Elle aurait une punaise dans le bois de lit.
Et un rat dans la contrebasse.
Je suis fixé, monsieur.
Le cas de cette malheureuse, qui est à peu de choses près celui de la foule entière, devait naturellement tenter l'esprit d'analyse et de logique d'un moraliste équilibré. Aussi ai-je conçu le projet de l'analyser tout au long, avec ses effets et ses causes, en un ouvrage intitulé du daltonisme mental.
Sans doute, mais...
Ouvrage d'une haute portée philosophique.
Mon Dieu !
Fruit de mes réflexions, fille elle-même, de mes longues veilles, et dont je prendrai la liberté de vous expliquer les grandes lignes.
Monsieur !
Pardon.
Ah, ça m'embête, cet homme-là. Vous pouvez fermer la porte.
Vous voyez, je fais comme chez moi.
Oui, c'est bien le temps que vous avez. Ma clé !
Votre clé ?
Oui, ma clé !
Quelle clé ?
Et la clé de serrure ?
Eh bien...
Eh bien, rendez-la moi !
Non.
Non ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que j'aime mieux la garder dans ma poche. Vous n'avez aucun intérêt à ce que cette porte soit ouverte ! Moi, j'en ai un très grand à ce qu'elle soit fermée. Je veux bien, vous, magistrat officiel, vous mettre dans le secret des dieux. Mais l'aller confier au hasard d'une porte qui peut s'entrebâiller sans bruit, l'aller jeter en pâture à l'oreille indiscrète du premier goussepin qui passe, c'est une autre paire de manches. Monsieur, le vent de folie qui souffle de toutes parts prend naissance dans un quiproquo, dans le malentendu survenu entre la nature qui commande et l'homme qui n'exécute pas, entre les intentions bien arrêtées de l'une et l'interprétation à brousse-poil de l'autre.
Si vous ne me rendez pas ma clé à l'instant même, j'appelle à l'aide, j'enfonce la porte et je vous fais expédier à l'infirmerie du dépôt ficelé comme un saucisson. Vous m'avez compris ?
À merveille. Si vous dites un mot, si vous faites un geste, si vous cessez un seul instant de me regarder dans le blanc de l'œil, je vous envoie 6 coups de revolver par le nez et je vous fais éclater la figure comme une groseille à maquereau. Oh ! Qu'est-ce qui m'a battu un fou furieux pareil ?
Commencez pas le...
Silence ou ça va mal tourner ! Je suis bon enfant mais je n'aime pas les fous.
Comprends ça !
Le fou c'est mon ennemi d'instinct, entendez-vous ? C'est ma haine ! C'est ma rancune ! La vie d'un fou suffit à me mettre hors de moi quand je tiens un fou à la portée de ma main ! Je ne sais plus, non ! Je ne sais plus de quoi je ne serai pas capable !
C'est la crise, je suis dans le bon drap !
Oh, savez-vous que pour un commissaire, vous êtes plutôt sujet au trac ?
Moi ?
Ah, vous en avez une peur.
Je vous assure.
Ah, faites pas le modeste, vous tremblez encore comme de la gelée de veau. Alors, vous n'avez pas compris quand je vous faisais une farce. Bon, jetons la figure d'un homme qui caresse de mauvais dessins.
Non, certes, mais c'est ce...
Ce quoi ?
Ce revolver, un malheur est si vite arrivé, ah, comme on dit.
Vous dites des enfantillages. Une arme n'est dangereuse qu'aux mains d'un maladroit, et je suis maître de la mienne comme un bon écrivain est maître de sa langue. Mais songez que je vous crève un as à 15 pas, et que je vous guillotine une pipe le temps de compter jusqu'à 4.
Vraiment ?
Vraiment ? D'ailleurs, vous allez en juger.
Ah, quoi, qu'est-ce que vous allez faire ?
Ne bougez donc pas, je vous dis qu'il n'y a pas de danger. La balle va vous passer au ras de l'oreille gauche, vous allez l'entendre siffler, vous allez voir. C'est très curieux. Attention.
Ne me pas.
Venez, je ne sais ce qui me retient de vous clouer au mur comme une chauve-souris avec 20 pouces de fer dans le ventre.
Oh, mais t'as comment ? On a pas le feu de fer, mais t'as comment ? On peut pas être en une minute avec vous.
Insensé !
Mais non !
Prenons vide ! Timbre fêlé ! Tête sans cervelle !
Je vous jure que vous êtes dans l'erreur, vous faites de mes facultés une idée qui n'est pas la bonne.
Je sais ! Vous êtes le fou traditionnel, classique, celui qui prêche et qui vend la sagesse. Mais pauvre idiot, tout en vous respire et trahit la démence. Depuis la bouffonnerie de votre accoutrement jusqu'à l'absurdité sans nom de votre visage.
Aimable.
Et puis qu'est-ce que c'est que toute cette paperasserie ? Ça ne sert à rien !
Mais si !
Et en erreur de vos sens abusés !
Oh, prénom !
Et ces cartons, ça n'a aucune utilité !
Eh, permettez !
Tirez !
Non, c'est gêné !
Et ça ?
Quoi ça ?
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est du feu.
Feu. Du feu au mois de janvier.
Eh ben.
Et t'y fais. Alors non. Non, vous ne comprenez pas qu'à moins d'être un énergumène, on ne doit faire du feu que pendant les grandes chaleurs.
À cause
que la nature, qui seule et toujours a raison, ordonne que l'homme ait chaud l'été comme elle veut qu'il ait froid l'hiver. Éteignez-moi ce brasier.
Oh, mais non!
Vous ne voulez pas l'éteindre?
Si.
Et autre. La nature ordonne que l'homme, l'hiver, soit exposé à mourir de congestion pulmonaire, tisie galopante, pneumonie, pleurésie et autres. Ouvrez-moi cette fenêtre.
Oh, mais non!
Vous ne voulez pas l'ouvrir?
Si.
Et que ça ne prenne pas! Enfin, elle veut et commande que l'homme, l'hiver, ait les pieds gelés. Enlevez vos godillots.
Oh, mais
vous
non!
Vous ne voulez pas les enlever?
Si.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est le placard au charbon.
Bien. Entrez-y.
Vous dites?
Je dis, entrez-y.
Oh, mais...
Vous ne voulez pas y entrer?
Je ne fais que ça.
C'était Le commissaire et bon enfant, comédie en un acte de Georges Courteline et Jules Lévy. Mise en scène Robert Manuel, réalisation Roger Dattis. Pièce représentée à la Comédie-Française et diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 11 mars 1951.